Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Figurez-vous que c'est en 1910 que, pour la première fois, un expert en armes a pu dire que chaque arme, chaque pistolet, chaque revolver, chaque carabine a une signature unique. Et je vais vous raconter l'affaire qui a marqué cette avancée révolutionnaire. Une affaire de 1910, l'enquête sur le meurtre à Nice d'Auguste Charlois. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à Philippe Marion du laboratoire de police scientifique de Lille, auteur de deux livres dont je me suis nourri, Petite histoire de la police technique et scientifique aux éditions Bod et Police scientifique, la véritable histoire des experts aux éditions 81. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire se déroule en mars 1910 à Nice. Et avant qu'on ne l'assassine, laissez-moi vous présenter le futur mort. Auguste Charlois, 45 ans. À Nice, au début du siècle, c'est une célébrité. Il est astronome. Et pas n'importe quel astronome, mais attention, hein. Entre 1887 et 1904, il a découvert, écoutez bien, 99 nouveaux astéroïdes, dont 27 par observation directe. Et vous savez comment ? Par une nouvelle méthode. Il a été le premier à utiliser la méthode photographique. Et ça lui a valu toute une foultitude de prix. 1889, le prix Valls de l'Académie des sciences de Paris. Et quelques années plus tard, le prix de l'Académie des sciences de Washington, s'il vous plaît, qui l'a couronné pour avoir retrouvé l'astéroïde Andromaque. Et cerise sur le gâteau, en 1899, la Société astronomique de France lui a décerné le prix Janssen pour ses travaux sur les petites planètes. Tout ça pour vous dire que cet Auguste Charlois est une pointure de l'astronomie mondiale, au sommet de sa carrière. Il habite bien sûr à l'observatoire de Nice, sur la colline du Mont Gros. Mais comme l'endroit est certes magnifique, mais un peu loin de tout, lui et son épouse ont un petit appartement en ville, rue Cupernatis. Et c'est là que le crime a lieu. Il est minuit, ils sont déjà au lit, bien sûr, quand quelqu'un frappe à la porte. Monsieur Charlois, un télégramme. Auguste Charlois va ouvrir et là, bam ! Il prend un coup de revolver en pleine poitrine. Madame Charlois arrive en courant, elle voit son pauvre mari par terre dans une mare de sang. Pas encore mort, mais pas loin. Et quand elle lève la tête, elle voit un homme s'enfuir dans la rue. Alors cet homme, le tueur, à quoi ressemblait-il ? C'est naturellement la première question que posent les policiers quand ils arrivent. Madame Charlois n'en sait rien. Elle ne l'a vu que de tôt. Mais M. Geoffrey, un voisin, l'a entrevu. Il avait une barbe grisonnante. Oui, grisonnante, je dirais. Et un locataire de l'immeuble, M. Joubert, a entendu quelque chose. Mais c'était juste après le coup de feu. J'ai entendu quelqu'un qui criait « Assassin ! Assassin !» Auguste Charlois est conduit en piteux état à l'hôpital Saint-Roch. Et c'est là qu'il meurt très peu de temps après son arrivée. Le voilà maintenant sur la table du médecin légiste. Il s'agit d'une balle de 6 mm. Elle a traversé le cœur Et après un trajet d'environ 25 cm dans le corps, elle est venue se loger dans les muscles du dos. Alors, qui en voulait à Auguste Charlois au point de le tuer ? Les policiers se lancent dans une enquête assez classique qui consiste à faire parler d'abord les commères du quartier et ensuite les amis de la victime. Et ce sont eux qui donnent un nom. Vous devriez vous intéresser au docteur Brengues. Faites-moi confiance. Et là, pour vous expliquer, il faut que je sorte l'arbre généalogique. Madame Charlois n'est pas la première femme de ce pauvre Auguste Charlois. Avant, il a été marié à une certaine Marie Michel. Eh bien, le docteur Gabriel Brengues est tout simplement le frère de Marie Michel. C'était donc l'ex-beau-frère d'Auguste Charlois. Un médecin de 46 ans qui, d'après les amis, exerce à Nîmes. Et maintenant, il reste à découvrir quel conflit il y avait entre eux. Et ce sont les amis qui racontent. Je vais tout vous expliquer. On vous a dit que M. Charlois avait une première femme.
Oui, oui, on nous l'a dit.
Et on vous a dit qu'elle était morte.
Ah ça non, non, ça on ne l'a pas dit. Mais vous allez me le dire.
Elle est morte en novembre 1902, d'un érysipèle infectieux compliqué par une méningite.
D'accord. Mais quel rapport est-ce que ça a à voir avec notre affaire ?
Attendez, de Touta, Marie, c'était son prénom, avait dit que comme elle était divorcée, en cas de malheur, elle léguait tout à sa sœur, Thérèse. Or, très peu de temps avant sa mort, elle a modifié son testament, et sur papier. Et il a écrit au crayon qu'elle léguait sa fortune, enfin une grande partie de sa fortune, à son ex-mari, Auguste Charlois.
Et le docteur Brengues, alors, quel rapport il a avec tout ça ?
Quel rapport ? Mais vous ne m'avez pas bien suivi, je pense. Brengues, c'est le mari de Thérèse. C'est sous son nez qu'il est passé l'héritage.
Et à l'époque, Brengues, il a manifesté sa réprobation.
Et d'après vous, bien sûr que ça lui a pas plu.
Et il en a fait quelque chose de sa colère.
Et bien sûr, il a porté plainte en disant le testament est faux.
Et il a gagné.
Eh bien non, il a perdu en première instance et en appel. Et depuis, il haïssait Charlois. Alors, bon, moi je ne dis pas que 8 ans plus tard, il lui a réglé son compte. Hein. Mais disons que ça trotte un peu dans ma caboche, quoi.
Le mobile tient la route. Le lendemain, le juge d'instruction se rend à l'observatoire et il fait fouiller le bureau de Charlois. Hé, monsieur le juge, regardez, ça va vous intéresser. Ce sont des lettres que Brengues a adressées à son beau-frère après avoir perdu les 2 procès contre lui. Tenez, je vous en lis une. « Nous venons de recevoir communication du jugement. Vos intrigues et vos mensonges sont couronnés de succès. Nous ne rappelons pas le souvenir de cette malheureuse Jeanne que vous avez épousée et estimée pour son argent. » Ça se confirme. Le docteur Gabriel Brengues avait un compte à régler avec Auguste Charlois. Alors les policiers décident d'aller le voir à Nîmes, où il vit et exerce son métier de docteur.
Oui, je reconnais que j'ai écrit ces lettres. Mais vous noterez qu'il n'y avait aucune menace dedans.
C'est vrai. Et de toute façon, il a un alibi. Le jour du crime, il est allé visiter des patients à Millau. Il a pris le train à 2h de l'après-midi. Il n'est rentré à Nîmes que le soir. Il dit qu'il a dîné chez lui
et sa femme confirment. Après, ils sont allés se coucher, et à minuit, quand on a tiré sur le pauvre Auguste, il dormait sur leurs deux oreilles. Entre nous, c'est un alibi un peu branlant. Il ne tient que par le témoignage de sa femme, la déshéritée, méfiance. Sauf que la bonne confirme elle aussi.
Ah mais oui, monsieur, il a bien dîné avec madame, et après ils sont allés se coucher.
Le problème, c'est qu'on ne trouve aucun témoin de tout ça. Personne ne l'a vu à la gare, quand il est rentré de Millau. Personne ne l'a vu non plus rentrer de la gare à pied jusqu'à chez lui. À une dernière question, docteur Bringuès.
Vous avez une arme, monsieur ?
Une arme ? Ah non, je n'en ai pas et je n'en ai jamais eu.
La balle qui a tué Charlois est envoyée à un armurier et expert de Saint-Étienne, Jean Grivola. J'ai pu examiner au microscope les rayures occasionnées par le tir. Je crois pouvoir dire sans me tromper qu'on a utilisé un pistolet de marque Browning. D'accord, mais ça ne nous dit pas à qui appartient ce Browning. Pas à Gabriel Bringuès, puisqu'il n'a pas d'arme et il n'en a jamais eu. Quelques jours plus tard, un pharmacien de Nîmes franchit la porte du commissariat. Il dit qu'il connaît bien le docteur Bringuès et qu'il a quelque chose à raconter. Écoutons-le.
Figurez-vous que le lendemain du meurtre de l'astronome, vous savez, Auguste Charlois, eh bien, le docteur Bringuès est venu à l'officine et il a demandé à mon préparateur de lui garder un paquet.
Quelle sorte de paquet ?
Un paquet enveloppé dans un journal, en lui disant « Emportez-le chez vous, je viendrai le récupérer plus tard. » Mais bon, sur le moment, mon préparateur l'a juste posé sur le comptoir. Et alors après Bringuès, il est revenu une deuxième fois, même manège, avec un deuxième paquet. Et puis il est revenu une troisième fois, il a vu que les deux paquets étaient toujours posés sur le comptoir, et il a dit « Bon, mais je vois que ça vous embarrasse », et il les a repris.
Donc, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans ces paquets.
Ah si, si mon préparateur a regardé, c'était un pistolet. Et dans le deuxième paquet, c'était des balles.
Oh, quel cachotier ce Bringuès. Le préparateur en pharmacie raconte qu'il lui a dit en partant, « Vous ne m'avez pas vu aujourd'hui, n'est-ce pas ? » Alors, cher docteur, vous n'avez vraiment pas d'arme à feu ?
C'est-à-dire que oui, j'en ai une. J'ai un Browning. Mais c'est un souvenir, c'est un souvenir d'un ami défunt, c'est mon pauvre ami Grabit qui est décédé l'année dernière. Je vous en ai pas parlé parce que j'ai eu peur que vous me soupçonniez, vous comprenez ?
Ce n'est pas du tout notre genre, docteur. Pas du tout notre genre. Et il faut que je vous dise que ce pistolet n'est pas vraiment un souvenir. Il l'a volé à son ami Grabit quand il est allé signer son acte de décès. C'est donc qu'il avait peut-être l'intention de tuer quelqu'un. Et à propos, ce pistolet Browning, où est-il ? Il n'est plus à la pharmacie et on ne l'a pas retrouvé chez lui. Mais les policiers découvrent qu'il l'a donné à garder sous forme de paquet à l'un de ses patients. Un capitaine qui, bien sûr, ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il va chercher le paquet. Le commissaire l'ouvre. Un Browning,
un Browning avec 16 balles. Si vous voulez mon avis, il est cuit, papa. Il est cuit patate. Dans la foulée, sur les lieux du crime, on trouve une deuxième balle qui file immédiatement chez l'expert de Saint-Étienne, la capitale des armes à l'époque. Et puis le juge organise une reconstitution chez Charlois, là où le crime a eu lieu. Monsieur Benguès, venez ici, et criez comme l'a fait le tueur la nuit du crime, « Monsieur Charlois, un télégramme. Allez-y. Je ne veux pas. Et pourquoi diable vous ne voulez pas? C'est très vexant. Pour moi qui ai l'accent gascon et pas l'accent provençal, c'est très vexant. Petit coquin. » Le procès du docteur Gabriel Bringuès s'ouvre 9 mois après le crime, en décembre 1910, à Nice. Toute l'instruction, il a dit haut et fort qu'il était innocent. Mais dès le premier jour, il perd la partie. Vous vous souvenez de son alibi? J'ai dîné à la maison avec ma femme et on est allé se coucher. La bonne Henriette avait confirmé. Mais à la barre de la cour d'assises, elle a changé d'avis.
Quand j'ai dit que mon maître avait dîné à la maison et qu'il y avait passé la nuit de samedi à dimanche, j'ignorais qu'il s'agissait d'un crime. Vous comprenez? Moi, je n'ai appris l'assassinat de M. Charlois que plus tard. Alors, sur les instances de madame et des amis de monsieur, j'ai déclaré que je lui avais servi à dîner. Mais aujourd'hui, je ne peux plus cacher la vérité. Il a quitté l'appartement le samedi 26 mars à 14h30. Et il n'est pas rentré pour dîner. Et le dimanche matin, je me suis levé à 6h. Monsieur n'était pas arrivé. Je suis allé à la messe et après j'ai fait le marché. Et monsieur n'est rentré que vers 10h du matin.
Je peux vous dire qu'il n'est pas aux anges, Gabriel, quand il entend ça. Et puis le deuxième jour, vient l'expert en armes de Saint-Étienne, Jean Grivola. C'est lui qui donne à Bringuès le coup de grâce. Et c'est un moment remarquable, parce que c'est la première fois dans l'histoire du crime qu'un expert en balistique vient clouer le bec à un accusé menteur. La première fois qu'on vient dire à la barre d'un tribunal qu'une arme a une signature. On m'a d'abord présenté la balle extraite du corps de la victime, et en observant les stries au microscope, j'ai été en mesure de dire que la balle avait été tirée par un pistolet Browning. Ensuite, on m'a apporté une deuxième balle qui présentait la même marque sur le culot d'un percuteur légèrement décalé avec des stries particulières. Elle était donc identique à la première balle. Et enfin, on m'a remis un pistolet Browning, trouvé dans le cadre de l'enquête. J'ai effectué des tirs de comparaison avec cette arme, dans de la ouate, de manière à ce que la balle ne se déforme pas. Et après avoir photographié les douilles et réalisé des agrandissements photographiques, eh bien, j'ai retrouvé les mêmes marques caractéristiques que dans les deux étuis que j'avais observés précédemment. Ces marques sont en quelque sorte la signature de l'arme. Et j'en conclus de façon absolument formelle que la balle qui a tué Auguste Charlois provient de l'arme du docteur Bringuès. et ponce sur le bec, docteur Bringuès. Le troisième jour, coup de théâtre. Le garde champêtre Mantel vient raconter qu'après le crime, Madame Bringuès a tenté de corrompre un de ses collègues. C'est-à-dire qu'elle est allée voir la femme de ce collègue et elle lui a dit « Si votre mari déclare qu'il a vu le docteur sur la route de Millau, eh bien je lui donne 3000 francs. » Subornation de témoin. Le président décide de renvoyer l'affaire. Deuxième procès, 2 mois plus tard, à l'issue duquel le docteur Bringuès est condamné pour assassinat aux travaux forcés à perpétuité. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. 4 mois plus tard, on le met dans un train direction le pénitencier de l'île de Ré. C'est de là que les forçats partent pour le bagne de Guyane. Il arrive avec 5 autres forçats en gare de La Rochelle. Et à la sortie de la gare, il échappe à son gardien et il se met à courir. Et il saute dans un omnibus et il court à travers le wagon. Et puis il trébuche et il se fait reprendre. Le bateau à vapeur qui l'emporte vers la Guyane apparaît le 2 août 1912. À bord, ils sont 454 forçats, dont notre bon docteur. Arrivé sur place, comme il est médecin, ça se passe plutôt bien pour lui. On a toujours besoin de médecins dans un bagne. Et donc très vite, sa peine est commuée en 20 ans de travaux forcés. Mais il meurt au bagne avant la fin de sa peine. En février 1926, 16 ans après avoir tué son ex-beau-frère, Auguste Charlois. Et sans savoir sans doute que grâce à lui, on savait désormais qu'une arme avait une signature.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.